Maxime Audinet, bonjour.
Bonjour.
Comment la politique africaine de la Russie se traduit sur le terrain?
Il y a une domination très nette dans ce que les Russes appellent la coopération militaro-technique, c'est-à-dire en fait les ventes d'armes, la formation militaire et plus généralement aussi tout ce qu'on peut appeler la prestation de sécurité, c'est-à-dire les Russes vont fournir en fait des forces, des armes, etc. pour protéger éventuellement les gouvernements ou certaines infrastructures, certaines compagnies dans plusieurs pays africains et ça passe à la fois par des acteurs étatiques mais aussi par des acteurs non étatiques, comme notamment la société militaire privée Wagner. Vous avez ensuite d'autres domaines qui sont plus faibles ou plus stagnants, comme celui par exemple de la diplomatie culturelle, qui sont en fait surtout héritières des anciennes sociétés d'amitié soviétiques en Afrique, mais qui sont assez peu nombreuses. Et puis enfin, vous avez un dernier domaine où vous avez clairement un accroissement et une montée en gamme depuis ces 2-3 dernières années, et qui est le domaine justement de l'influence médiatique et informationnelle, qui se caractérise donc à la fois par ce qu'on appelle la diplomatie publique ou la propagande médiatique internationale, par des opérations d'influence ou de désinformation. Et puis aussi, et c'est un élément intéressant, par l'infiltration, en fait, par des acteurs russes de certains écosystèmes médiatiques africains, notamment quand ceux-ci sont assez fragiles ou assez précaires, et c'est le cas en particulier en République centrafricaine.
Et dans quel contexte ce retour de la Russie en Afrique se fait-il?
Vous avez eu un retrait brutal de la Russie après la chute de l'URSS, mais il y a eu un réinvestissement assez progressif dès la fin des années 90 et début des années 2000, parallèlement à la volonté en fait des autorités russes de ne pas être seulement orientées vers les pays occidentaux, même si en fait c'est surtout depuis le sommet Russie-Afrique de Sotchi en octobre 2019 que la Russie a vraiment matérialisé en fait ce retour en force sur le continent africain. Et l'année prochaine, il y aura une nouvelle édition de ce sommet Russie-Afrique qui devrait se tenir dans un pays africain.
Votre étude se penche en particulier sur l'influence médiatique de la Russie, d'abord de manière officielle et publique. Comment est-ce que cela s'organise?
Alors, ce sont d'abord les médias russes internationaux, et notamment RT, Russia Today, et puis surtout Sputnik, qui est le mieux implanté. Ce qu'on observe en fait aujourd'hui, c'est que la portée de ces médias est encore finalement très limitée, surtout si on compare à la France. Pour vous donner juste un chiffre, on estime à peu près que moins de 3% des audiences des sites web de RT et Sputnik France viennent d'Afrique subsaharienne francophone, alors que environ 70 à 80% de ces audiences viennent de France. Même si on observe une croissance en fait assez nette depuis 2018 en préparation du sommet de Sotchi, et c'est le cas en particulier de Sputnik France qui développe en Afrique subsaharienne francophone et en particulier au Mali et au Cameroun où justement il réalise d'assez bonnes audiences pour un média international en tout cas.
Et puis vous détaillez des opérations d'influence indirecte.
Alors oui, il y a des opérations d'influence peut-être plus confidentielles, plus subversives. J'essaie d'ailleurs de faire un parallèle avec ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide les mesures actives, en fait, qui étaient ces opérations menées par le service A de la première direction générale du KGB. Alors aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus le KGB. On connaît très mal, ce n'est pas du tout en fait les actions des services de renseignement russes en Afrique, mais en revanche, il y a une documentation assez importante sur les actions d'acteurs qui sont des acteurs para-étatiques ou des acteurs privés, notamment le cas de cet homme d'affaires et entrepreneur d'influence bien connu qui est Yevgeny Prigojine. Et donc, ce qui est intéressant avec ces opérations d'influence, c'est que vous avez d'abord des opérations de désinformation ou d'influence en ligne. Ça a été le cas, par exemple, en République centrafricaine un petit peu avant les dernières élections présidentielles. Et puis, vous avez aussi la fabrication de faux documents. Et ces opérations d'influence, si on les compare en fait avec les campagnes médiatiques plus ouvertes, la tonalité est beaucoup plus offensive, notamment en ce qui concerne la critique de la France, qui est souvent ramenée à son passé colonial, à son attitude quasiment néo-impérialiste dans tous ses États.
Alors un autre exemple de votre étude, c'est l'opération Barkhane au Sahel. Peut-on comparer la situation avec la Centrafrique?
Alors, au Sahel, la situation est quand même très différente parce qu'en fait, la France est très présente malgré son retrait annoncé. Et vous avez même des États tampons, en fait, contre l'influence russe, comme le Tchad en particulier. Donc, ce qu'on observe, c'est que sur la couverture même de l'opération Barkhane, les médias russes ont été plus prudents et plus parcimonieux que pour ce qui concerne les actualités en Centrafrique. La question qui se pose, c'est surtout au Mali, en fait, parce que Sputnik est assez bien implanté dans le pays. Le sentiment anti-français atteint des sommets dans les États sahéliens. Et se pose la question en fait de la manière dont la Russie pourrait non seulement essayer de capitaliser sur ce sentiment anti-français, et puis surtout comment elle pourrait occuper les vides qui vont être laissés dans les mois et les années qui viennent par la France, y compris dans cet espace informationnel, comme en Centrafrique, en fait, un peu plus d'un an après la fin de l'opération Sangaris.
Maxime Audinet, merci.